Podcastobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Jean-Frédéric Neuburger.
Bonjour.
Alors, vous publiez chez Mirare un nouvel album, mais pas tout seul, avec le Quatuor Modigliani. Un album axé autour d'une quintette avec piano de Brahms. Comment vous choisissez en fait ce qui va être gravé dans la cire ou ce qui ne le sera pas? C'est-à-dire quelque chose qui va rester pour vous, ça a une valeur particulière, l'enregistrement, le disque même, à l'heure de la dématérialisation de la musique, est-ce que le disque ça a une signification?
Le disque pour nous, aussi bien moi que le quatuor Modigliani et que Andrea Hill, mezzo-soprano qui
oui,
chante
vrai,
également sur cet album, c'est pour nous un moyen, je pense, de nous confronter à comment fixer notre travail. Parce que notre travail est tout le temps évolutif. On fait de la scène, on fait des concerts, et finalement, le disque, c'est comment fixer, pourquoi fixer, parce qu'on pense qu'on a fait quelque chose qui est bien, qui est abouti, mais on sait très bien au moment où on enregistre que on pourra faire mieux plus tard, que c'est destiné à encore d'autres changements. Donc, on le fait sans grande prétention. Je ne pense pas qu'on est là en train de dire qu'on va, avec ce quintet de Brahms, essayer de faire mieux, entre guillemets, que toutes les références, les Rubinstein, Guarneri, les Fleischer ou autres. C'est un moyen pour nous de confronter notre travail à quelque chose d'un peu fixé, net et définitif, à intervalles réguliers.
C'est la même problématique à chaque fois que vous enregistrez un disque, justement, se confronter éventuellement à des enregistrements dits historiques ou pas?
Plus ou moins. C'est évidemment le cas forcément pour ce quintet de Brahms ou pour d'autres disques que j'ai pu faire en solo, avec des œuvres majeures comme la sonate de Liszt. Mais bon, heureusement, il nous arrive aussi d'enregistrer des choses moins enregistrées, encore que de plus en plus on trouve un peu tout. Tout ce qui a été moins enregistré dans les dernières années a été ressorti et mis en avant, mais on trouve toujours des choses. Je pense que mon prochain disque solo comprendra des œuvres pas forcément qu'on n'enregistre pas tous les jours. Voilà, donc effectivement, c'est toujours un espèce de poids sur la conscience quand on est en session d'enregistrement et de savoir qu'il y a tout ça derrière nous déjà.
Et ces disques, alors pas les vôtres, ceux des autres, des anciens, quelle valeur ils ont eu dans votre éducation musicale? Est-ce que vous êtes un discophile? Vous étiez une sorte de geek qui collectionnait, qui achetait, qui téléchargeait, qui enregistrait, etc. Est-ce que vous avez des phases? Est-ce qu'il y a un peu toujours deux types de solistes, ceux qui sont toujours très rapprochés vraiment au disque et ceux qui au contraire ont une éducation, je veux dire, discographique un peu plus légère?
Si je devais me définir, je ferais sans conteste partie de la deuxième partie. Bien que j'ai eu pour certains moments de ma trajectoire et également ça dépend pas mal des œuvres et de l'intérêt que j'avais pour certaines choses, des moments où j'allais très loin dans les recherches discographiques, mais de manière générale je suis pas du tout un flâneur de vieille cire spécialement. Voilà. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de constater l'évolution d'interprétation à travers les 100 dernières années. Ça, c'est très intéressant. Cette interprétation qui va vers une clarté d'ensemble toujours beaucoup plus grande pour ce qui est de la musique de chambre, et aussi qui fait que les succès de certains artistes des années 40 ou 50 ne seraient plus aujourd'hui imaginables avec la quantité de scories qu'on trouvait dans leurs enregistrements. On pense évidemment en tant que pianiste aux enregistrements de Chopin par Cortot, par exemple.
Justement, ces modes, comment vous les vivez? C'est-à-dire qu'il y a celles que vous connaissez historiquement, comme vous dites, mmh. et après il y a celles qu'on vit au quotidien, de par des interprétations qui vont revenir, d'autres qui vont être oubliées, même des œuvres carrément, etc. Comment on vit quand on est interprète avec, avec ses à côté, j'allais dire, à côté de, parallèlement à votre intimité avec la musique?
Bah justement, je crois que le propre de la mode, c'est qu'il ne faut pas trop justement essayer d'y penser ou essayer d'en déduire des vérités éternelles ou autres. Je pense que si on est un interprète sincère, justement, c'est quelque chose qu'on regarde, qu'on peut constater, mais qui ne doit pas trop influencer les choix, évidemment, qu'on peut faire soi-même dans l'interprétation ou bien dans les choix de répertoire. Mais parfois, constater une évolution dans le sens positif des interprétations, une plus grande attention peut-être portée au texte du compositeur, ou bien cette attention qui peut également mener à des excès non souhaitables, notamment lorsque on sait très bien que, par exemple, quand un compositeur écrit une phrase pour la deuxième fois, il ne va pas recopier exactement de la même manière. Mmh. Et donc, est-ce que pour autant, il faut toujours en tenir compte, ou est-ce qu'il n'y a pas parfois de la négligence due à une fatigue de recopiage, etc. Bon, ça, c'est des choses auxquelles il faut essayer de penser. Et je crois que c'est le bon sens et une grande partie de l'instinct inné de l'interprète qui doit prendre les décisions.
Mmh. Si on revient à Brahms, quelle place il occupe dans la biogérosphère, on pourrait dire,
une place assez importante, puisque j'ai notamment enregistré un double album solo dans une autre maison de disques, Discover, avec les trois sonates de jeunesse et le Scherzo opus 4. Voilà, donc bon, c'était déjà un choix mûrement réfléchi, c'était il y a quelques années. Là, j'y reviens effectivement avec ce quintet, avec le Quatuor Modigliani et puis les Gesange pour alto et mezzo-soprano avec Andrea. Cette place, elle est compliquée à définir parce que, autant je pense qu'il y a une mode Brahms dans l'éducation des pianistes depuis quelques années, depuis 10-15 ans, on trouve beaucoup d'albums Brahms, on trouve beaucoup d'enregistrements consacrés à ce compositeur, notamment parmi l'ensemble des pianistes en Amérique également. Et je pense que cette mode, elle est parfois un peu exagérée, notamment dans la formation des pianistes, je le ressens. Enseignant au conservatoire, je trouve presque Brahms est trop pratiqué par rapport à d'autres compositeurs romantiques qui sont beaucoup moins enregistrés et servis au disque. Je pense notamment à Schumann et à Mendelssohn, dont on trouve moins récemment sortis parmi les albums de pianistes.
Justement, l'éducation musicale, les choix, vous dites par exemple, prenez cet exemple, disons, on enseigne trop Brahms, etc., le poids de certains professeurs, etc. Comment on se sort de tout ça pour trouver sa propre voix? C'est quelque chose qui est inné, qu'on a en soi, qui pour vous était une évidence, qui est venu facilement? Est-ce que c'est, y a des instants précis qui font voir des révélations? Est-ce que c'est une sorte de combat finalement aussi?
Ça peut tenir du combat pour essayer justement de se débarrasser de ces influences, de ces choses qu'on constate et qui deviennent malgré nous part de notre univers. Mais je crois évidemment que c'est ce que vous disiez, le fait de ne pas en tenir compte ou presque pas, de s'échapper, d'avoir son monde intérieur, ses partitions de chevet, ses références sur le piano toujours, et essayer de ne pas se laisser influencer. Je crois que
c'est facile ou pas finalement?
Pour moi, c'est relativement facile, mais c'est parce que justement, c'est un mode de fonctionnement qu'on apprend à avoir, je crois, surtout.
Qu'est-ce qui vous a aidé, dans l'attention? Ça, c'était directement, finalement, dans votre ADN dès le début?
Sans doute un peu. C'est aussi grâce à la formation initiale, les premiers professeurs qui vous guident à... C'est très important d'essayer de ne pas devenir les clones de ces professeurs. C'est très important aussi d'avoir
Emile Naumov, par exemple.
Ah oui, professeur très important, bien sûr. Un de mes premiers mentors, on peut dire. J'ai eu la chance de rencontrer quand j'avais 10 ans. Et puis ensuite, j'ai arrêté de travailler avec lui quelques années plus tard, quand il est parti aux États-Unis. Un professeur absolument remarquable, justement parce que tout en étant parfois dans la critique, tout en étant aussi dans la moquerie par rapport à certaines tendances de l'élève, cette moquerie est rarement gratuite. Et c'est toujours, j'allais dire, le point de vue de la personne qui sait que la personne qu'il a devant lui changera, mais qu'elle n'a pas besoin de ses conseils pour changer, qu'elle changera elle-même. Et donc ça, c'est très important. Le fait justement de ne pas insister, de ne pas être dans le fait comme moi, etc.
C'est une discussion à trois avec lui, vous et au milieu le compositeur de la partition?
Un petit peu de ça. Mais c'est surtout dans la découverte de la de la personnalité propre de l'interprète, en l'occurrence qui est un élève, que ça se joue. Il faut pousser l'interprète à aller chercher en lui ce qu'il voulait exprimer par le truchement de ses partitions, tout en gardant ce respect profond et essentiel pour le message personnel du compositeur.
Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, qu'est-ce qui vous reste avec le recul aujourd'hui de cet enseignement-là en particulier, Naumoff, par exemple ?
Ben, c'est la même chose avec chaque partition, c'est-à-dire interroger la partition dans le détail. Évidemment, la culture de base indispensable pour appréhender une partition, la vie du compositeur, les conditions d'écriture de la partition, les conditions de création, sont des moyens de comprendre le pourquoi de la partition. Pourquoi est-ce qu'elle dure ce minutage-là, dans tel cadre, avec quelle pièce elle était programmée, quelle est la pièce qui précédait dans le travail du compositeur, pour comprendre si par exemple c'est une réaction face à une précédente tendance du compositeur. Tout ça est très important. Et également, une fois ce travail acquis, d'aller chercher dans les détails d'écriture les références musicales. Pourquoi est-ce que tel passage de Brahms va être plutôt à la Mendelssohn, tel passage de Brahms va être plutôt presque à la Strauss. Et donc toutes ces références qu'on a acquises et qui donc sont fonction de la culture précédente de l'interprète vont vous aider après à trouver le sens de chaque phrase de manière à le communiquer de la manière la plus directe, la plus efficace aux auditeurs. Et ça, je pense qu'il y a des partitions avec lesquelles on a plus ou moins envie de le faire. C'est pour ça qu'il y a des pièces après qu'on ne jouera pas, par exemple.
Vous avez touché un peu à des compositeurs assez différents, assez divers et variés, on peut dire, différents siècles, différents styles, etc. Avoir les oreilles ouvertes comme ça, la curiosité, c'est quelque chose de vital, d'essentiel, à ce niveau, à cette période de votre parcours.
Oui, c'est quelque chose, et d'ailleurs, qui est bien parti pour se développer encore plus, j'ai envie de dire, parce que il y a quelques années, je jouais principalement les œuvres que j'avais déjà à mon répertoire, et depuis maintenant 2 ans, justement, je suis encore plus en expansion, si j'ose dire, que ce que je faisais avant. Là, par exemple, je m'intéresse de plus en plus à créer des œuvres de compositeurs vivants. Je pense que le travail avec le compositeur, écrivant moi-même, j'ai la chance de connaître pas mal l'univers de la musique contemporaine, est quelque chose de rare et une chance dont on ne doit pas se priver quand on est interprète de musique classique contemporaine. Donc il y a certains projets qui sont en cours, qui auront lieu l'année prochaine, donc je ne vais pas forcément parler là, et donc voilà, qui me passionne tout à fait.
Est-ce que c'est une mission pour un interprète, justement, de jouer des compositeurs de son temps ?
C'est une mission, mais ça n'a pas non plus... j'allais dire, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de spécialement difficile ou quelque chose de spécialement...
Non, mais sans être difficile, même par rapport à vous, à vos envies, à votre esthétique, à votre vision de la musique, ça fait partie, c'est quelque chose
qui doit se faire, évidemment, c'est plus qu'essentiel. Et donc c'est aussi pour, d'une manière, certaine manière, pour refamiliariser le grand public avec l'univers de la musique contemporaine. Je pense que c'est très important de le faire dès maintenant, parce que le fossé qui s'est un tout petit peu creusé, du fait aussi que les compositeurs ne sont plus pour la plupart des interprètes se produisant eux-mêmes, est encore, j'allais dire, rattrapable. Et je pense que ça, c'est beaucoup le rôle des interprètes de le faire.
La composition, c'est venu en vous de manière... C'était une évidence, c'est quelque chose qui a germé progressivement. Comment on en arrive là ?
Non, c'était assez une évidence, puisque déjà à l'époque où je travaillais avec Émile Naumov, donc, il me faisait également travailler à la composition, et j'avais déjà écrit quelques œuvres. J'ai eu la chance ensuite, en tant qu'étudiant au conservatoire, d'être joué à différents endroits, à différentes académies, et d'écrire toujours des pièces pour mes amis. Et ensuite, ça a germé en moi de manière de plus en plus importante, jusqu'à certaines créations qui ont eu lieu l'année dernière, et des projets sur lesquels je travaille actuellement.
C'est facile d'être son propre juge par rapport à ses propres compositions ?
Vous savez, on est le juge de ses idées, mais on n'est pas le juge de ses œuvres. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris quelque chose, je vais choisir la bonne idée, au moment où je travaille. Mais une fois que l'œuvre est achevée, je ne suis pas là en train de me demander quelle valeur ça a. C'est aux autres de dire, de délimiter éventuellement la valeur d'une œuvre artistique, tout en ayant d'ailleurs toujours une marge d'erreur assez importante. C'est avec le temps qu'on comprend éventuellement si tel ou tel compositeur est un compositeur majeur ou non. Mais une fois que l'œuvre est achevée, en ce qui me concerne, c'est comme un fardeau qui vous délaisse, c'est-à-dire que quelque chose qui vous pèse, où on sent qu'on a quelque chose et on sent qu'on a un message à délivrer. Et ce message, une fois mis entre les mains des copistes ou de l'interprète, que ce soit moi ou que ce soit d'autres, je pense que c'est très important de savoir s'en libérer pour justement voir plus loin, voir la prochaine création en cours ou autre.
Est-ce que dans l'intérêt aussi de ça, le truc, quelque chose de majeur ou de central, c'est justement la façon dont les autres vont s'approprier ces œuvres, où vous ne serez effectivement que le compositeur et là, et plus du tout l'interprète.
Voilà. Bien sûr, ça c'est le destin de l'œuvre écrite, que d'être retranscrite donc par d'autres médiums. Et donc, contrairement, on pourrait parfois envier les peintres ou les sculpteurs qui sont eux-mêmes leurs propres interprètes, si j'ose dire, puisque ce qu'ils font est un accès direct au public. Nous avons donc le médium de l'interprète qui est là. Justement, ça permet aussi d'essayer de recadrer ce qu'est mon propre travail d'interprète par rapport à l'œuvre écrite. C'est quelque chose d'important, justement, de que je sente ça moi-même quand je suis joué, par exemple. Et ça me permet de relativiser ma dimension en tant qu'interprète par rapport à l'œuvre que je joue.
Dans toute cette forêt de musique, dans tous ces intérêts que vous avez dit, qui vous habitaient, comment on arrive à faire le tri, tout ça ? Est-ce que c'est... comment on trouve sa voie ? Comment on avance ? Est-ce que ça se fait naturellement, de manière... sans finalement se poser de questions ? Ou est-ce qu'il faut vraiment faire un travail pour aller vers ce qui vous paraît essentiel ? Comment vous faites votre feuille de route, j'allais dire, par rapport à ça.
Ce travail est parfois un peu douloureux. Il est toutefois important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire tout le temps. En l'occurrence, la chose importante, c'est savoir être profondément sincère dans ses choix, faire ce qui vous paraît approprié au bon moment.
Est-ce qu'il y a des étapes imposées quand on est pianiste, par exemple ?
Sans doute, elles le sont. Par exemple, l'enregistrement de certaines pièces phares du répertoire. Pas certaines pièces, mais le fait d'enregistrer des œuvres majeures est, je crois, quelque chose de totalement important. Quand j'ai enregistré les études de Chopin, ou les sonates de Brahms, ou les sonates de Liszt, on sait très bien que c'est quelque chose par lequel on doit passer pour avoir une chance d'être entendu, la valeur de son message en tant qu'interprète. C'est comme un acteur de théâtre qui ne jouerait pas les grands rôles, ça serait pas possible.
Vous êtes ici à Nantes. Qu'est-ce que ça représente, ce genre de manifestation, pour vous? Comment vous la voyez?
Maintenant, c'est la sixième année que je viens, en fait. La première fois, donc, c'était la folle journée autour de Beethoven et ses amis. Et donc, là, univers après univers, c'est l'occasion pour moi de jouer ici, à Nantes, différents pans de mon répertoire, de manière partielle, de revisiter pour le public de cette folle journée, qui est excessivement vaste et variée, pas mal de pièces.
C'est assez atypique.
Assez atypique, bien sûr, et je crois incontournable dans la vie musicale française maintenant. Et les gens qui font justement tout ce voyage musical, cet effort d'immersion dans la musique classique, sont de plus en plus, j'espère, enfin, sont de plus en plus nombreux et passionnés par ce qui se fait. Et je crois que c'est assez important et fort de justement que la plupart des grands musiciens classiques viennent ici, jouent leur répertoire et transmettent ce message, chacun à leur manière, des grands auteurs, pour le grand public français.
Vous avez dit qu'on n'a pas le temps de tout faire. Quand il vous reste un peu de temps, est-ce que vous écoutez des musiques autres que celles que vous jouez?
Bien sûr, bien sûr. Beaucoup. Écoutez, par exemple, évidemment, le jazz assez moderne ou plus ancien, la soul music, parfois des amis, notamment j'ai un ami, Francesco Tristano Chimé, qui est un pianiste qui fait pas mal d'improvisation électro, voilà, et autres, avec qui était d'ailleurs aussi un élève d'Emile Naumov, il y a une dizaine d'années. Voilà, et... Non, c'est-à-dire que...
Donc vous allez partir à Détroit, vous aussi, pour enregistrer Carl Craig, comme il a fait, pour faire de l'électro?
Alors, malheureusement non, je serais bien allé les écouter là-bas. Mais non, bien sûr, c'est loin d'être exclusif, mais en revanche, c'est d'ailleurs tout l'univers artistique dérivé justement de cette ambiance sonore, y compris chorégraphique, y compris cinématographique, qui est appelé à m'intéresser de plus en plus, je crois, aussi.
Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les années... proche à venir, aussi bien au disque?
Alors, toujours poursuivre des enregistrements, ça, je pense que c'est très important, justement, de ne pas laisser tomber ce pilier de la vie musicale qui est le travail d'enregistrer des œuvres, de donner une vision d'une pièce une fois pour toutes. Je crois que les enregistrements, même si aujourd'hui on sait très bien qu'on ne vend pas, etc., un nombre de disques faramineux, etc., c'est quelque chose qui est important, donc comme étape pour l'interprète, pour se projeter dans une vision d'une œuvre, de toute manière. Également, sans doute, pour le public, de découvrir la vision des jeunes interprètes du répertoire déjà rabâché ou non. Et par ailleurs, une attirance aussi de plus en plus grande pour l'enseignement. J'enseigne déjà depuis 2 ans au Conservatoire de Paris. Différentes disciplines, notamment la réduction d'orchestre, et en cela très marqué par Emile Naumov, justement mon ancien maître. J'aime justement assez volontiers transmettre mon savoir musical et ce que je pense être important comme base donnée, par exemple, pour des élèves à venir. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, tout en continuant à faire la scène de la manière la plus sincère, comme j'essaye de faire.
Vous avez dit enregistrer une fois pour toutes. Comment vous mettez cette phrase en phase avec justement la valeur que vous donnez en enregistrement?
Parce que c'est, comme je disais à propos du neuf, c'est aussi le fardeau dont on se débarrasse. Donc ce côté une fois pour toutes, ça veut pas dire la perfection acquise et prise comme telle. Ça veut dire une fois pour toutes au moment où on l'a mis en piste.
Vous avez parlé de l'enseignement, quelque chose qui vous tient à cœur, comme vous venez de le dire. Est-ce que c'est à double sens? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous apprenez de vos élèves?
Ça arrive parfois que par exemple, des univers qui ne nous passionnent pas, forcément, au sein de l'univers musical, il y a certaines choses auxquelles on est moins sensible, passionneront d'autres personnes que vous. Et ça permet, ne serait-ce que ça, de relativiser l'importance de ses goûts personnels. À savoir que c'est pas parce que, par exemple, parce qu'un univers musical ou bien une manière de jouer, par exemple, vous paraissent fausses, qu'elle est fausse pour tout le monde. Je pense qu'il y a justement, il n'y a pas de vérité tellement universelle dans la musique. Il n'y a que des changements d'opinion qui sont en fonction de vos références, de votre éducation musicale et autres. Et donc, je pense que ça apprend pas mal, justement, d'accepter la différence d'avoir des élèves.
Est-ce que tout ça, finalement, est un peu lié, c'est-à-dire l'enseignement, la composition, devoir passer par des œuvres un peu obligatoires, tout ça, c'est imbriqué les uns dans les autres? Comment ça fonctionne en vous? Tout est assez, finalement, cloisonné?
Je ne saurais pas tellement dire si c'est imbriqué ou cloisonné. Ça dépend des jours, ça dépend des périodes. Il y a évidemment des périodes où ils sont plus concentrés sur tel ou tel aspect. La vie, par exemple, des périodes plus de voyage avec des concerts, tous les jours ou presque. Mais je crois tout de même que, ayant aussi des périodes plus désorganisées, où toutes mes activités se mélangent un petit peu, il n'y a pas d'incohérence à ce que je fasse ces choses-là en même temps. Ça ne me dérange pas, disons.
Est-ce qu'il y aurait des envies de temps en temps, même si je sais que vous êtes jeune et que, comme on dit, en début de carrière, d'avoir des moments justement de pause dans ce sorte de flot incessant de concerts, de tournées, d'enregistrements, et vraiment d'appuyer sur le bouton un peu pause pour vous retrouver juste seul avec les partitions?
Seul avec les partitions, ça arrive. Seul sans les partitions, ça arrive moins rarement. Enfin, ça arrive plus rarement, je veux dire. Heureusement, c'est-à-dire qu'il y a des périodes, notamment les périodes où j'enseigne plus, sont des périodes un peu de repli, de travail. Que ça soit un travail interprétatif sur telle ou telle partition, que ça soit un travail de composition sur un prochain concert à venir. Donc ça, heureusement, ça arrive. Je pense que d'ailleurs que ça serait absolument pas possible que ça n'arrive pas, parce que c'est le travail, et le travail en grande partie solitaire, forcément, est l'étape numéro un dans la formation du musicien, surtout avec l'exigence de plus en plus grande du public qui vient au concert, etc., pour entendre quelque chose qui est forcément un travail très abouti. Donc ça, c'est quelque chose de nécessaire. Ensuite, le fait de prendre du recul par rapport à mon activité musicale, c'est pas pour tout de suite. Je ressens pas le besoin, en tout cas, de prendre 3 mois sabbatiques entièrement, par exemple.
Est-ce qu'on a le réflexe toujours ou pas de regarder un peu ce que font les autres qui travaillent au même instrument, par exemple, de regarder ses confrères à peu près de la même génération ou autre, ou ça peut se faire juste par hasard ou naturellement? Comment vous...
Ça peut bien sûr se faire par hasard. Je pense tout de même que le réflexe est intéressant, mais ça dépend de l'état d'esprit du moment. Ça dépend beaucoup de l'état d'esprit du moment. D'ailleurs, des festivals comme la Folle Journée sont parfois l'occasion tout à fait de se livrer à ce travail, puisque entre nos différents concerts, si tant est que l'on soit suffisamment prêt, qu'on n'ait pas besoin de tout le temps répéter, on peut tout à fait aller écouter des dizaines d'autres musiciens du même instrument ou autre, et justement faire un travail comparatif des différents styles, des différentes approches, même d'une seule œuvre parfois. Donc ça, je crois que c'est une richesse assez importante de ce festival. Mais plus généralement, il arrive qu'il y ait des périodes où ça soit un peu comme les références discographiques, bienvenues dans votre univers musical du moment, ou bien au contraire quelque chose à éviter.
Et ça a été bienvenu ici, par exemple, à Nantes?
Ah, bien sûr, en général.
Des instants intéressants aussi?
Oui, j'ai le projet d'y aller, bien sûr, aller écouter pas mal de choses, pas forcément que du piano. Mais,
pas forcément que du piano. Merci beaucoup, Frédéric Neuberger.
Merci beaucoup.
Thank you.
www.marcxisman.com. Rencontre par Marc Zisman.